Va aborder un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse à la vie intra-utérine et donc je vais partager ce que je pense avec vous. Alors d'abord, pourquoi s'interroger sur la vie intra-utérine? Parce que quand on est obstétricien comme moi, eh bien c'est normal que chaque fois qu'on voit un enfant naître, on se pose la question. Par contre, ce qui m'a toujours étonné, c'est que mes collègues ne se la posaient pas. Donc je pense qu'il faut en même temps être curieux, et c'est vrai que j'ai toujours été curieux de ce que je ne comprenais pas, et que je ne suis pas du tout le seul, mais que depuis très longtemps, je me demandais qu'est-ce qui se passe quand cet enfant arrive, quand il nous regarde, que ce soit en tant qu'obstétricien ou en tant que parent, parce que quand c'est les siens, et qu'on voit comment ils arrivent, comment ils nous regardent, c'est tellement prenant pour ceux qui ont fait cette expérience, que forcément on se demande de quel monde ils viennent. Il y a une autre raison qui fait que j'ai aussi voulu faire cet exposé, c'est que je pense que la méconnaissance qu'on a de la vie intra-utérine a des conséquences, hélas, graves, parce qu'on prend des décisions sur beaucoup de sujets sans en tenir compte. C'est-à-dire que je pense que savoir ce qui se passe dans la vie intra-utérine va modifier notre façon de percevoir la grossesse, la femme enceinte, comment est-ce qu'on prend en charge médicalement ces grossesses, comment on s'occupe de l'accouchement, d'une autre façon peut-être. Se poser la question de, au moment de la naissance, cet enfant qui arrive, qui est-il, d'où vient-il, qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Donc ça, c'est déjà tout un pan. Et puis, il y a toute la question aussi de l'ambiance dans laquelle se déroule la grossesse, l'ambiance physique. Alors, on fait très attention actuellement aux perturbateurs endocriniens, à l'alcool, à tout ça. Mais le contexte psychique est pris en compte, mais pas vraiment au bon niveau pour moi. Et puis il y a toutes les questions autres qui se posent, parce qu'il faut oser toutes les questions qui concernent l'interruption de grossesse, tout bêtement, toutes les questions de la PMA, avec pour certains pays la grossesse pour autrui, enfin tout ça. Et je pense qu'il faut aborder ça sans a priori, mais que cette connaissance va permettre de réfléchir différemment et peut-être se comporter différemment dans un certain nombre de sujets. Et puis je pense qu'aussi, finalement, on va l'aborder très vite, ça, à un moment, surtout la prochaine fois, mais que non seulement la connaissance de l'humain va y gagner, la connaissance de nous-mêmes aussi, parce que ce n'est pas qu'une histoire de grossesse et d'accouchement, c'est une histoire que nous avons tous traversée. Tous, nous avons vécu la vie intra-utérine et on n'en a pas des souvenirs très précis. Et pourtant, c'est inscrit en nous dans une couche extrêmement profonde et extrêmement essentielle de nos êtres. Et donc, reprendre contact petit à petit avec ce monde-là, ça me paraît très important. Alors, c'est vrai qu'actuellement, la vie intra-utérine, c'est un déni, puisque, par exemple, quand on donne son âge, on donne son âge depuis la naissance, alors qu'on a déjà 9 mois. Et que donc, on devrait rajouter 9 mois à notre âge. Alors c'est vrai que le moment de la conception, quelquefois, les parents ne s'en souviennent pas, donc c'est difficile de donner une date. Mais pourtant, vous allez voir qu'il s'est passé des choses tout à fait importantes depuis ce jour de la conception, et que donc on devrait vraiment réfléchir et se dire que non, on a notre âge plus 9 mois, ou 8 mois et demi, ou 9 mois et quelques, selon. Ça, c'est une première chose, c'est ce déni par rapport à cette période qui est un peu occultée, comme s'il n'avait pas d'importance. L'autre chose, c'est la conception qu'on a des bébés. Alors, ce que je vais dire, heureusement, c'est plus tout à fait d'actualité, parce qu'on a évolué dans la façon de voir les bébés, mais en 1950, il y a deux pédiatres américains qui ont dit qu'en fait, l'enfant était un tube digestif, et qu'en plus, c'était une espèce de démon qu'il fallait à tout prix dompter. Et donc, il fallait le laisser seul pleurer, c'était... Et ça a eu des effets tout à fait délétères sur l'éducation des enfants. Et cette idée, même si elle n'est plus d'actualité tout à fait, elle traîne encore un peu comme quoi l'enfant serait finalement une espèce d'être pas très évolué et que heureusement il rencontre les humains. Et grâce à cette rencontre fabuleuse, entre guillemets, il va pouvoir enfin devenir humain. En fait, je disais que ce n'est plus tout à fait d'actualité, parce que tout le monde sait qu'il y a des chercheurs qui ont abordé les choses différemment, comme Dolto, Bettelheim, Winnicott, Marie Montessori, Catherine Guéguen, pour ceux qui la connaissent, Boris Cyrulnik, parce que vous avez entendu parler, qui est maintenant à l'origine, enfin, pas à l'origine, mais qui s'occupe des 1000 premiers jours de la vie, on en parlera, c'est tout un mouvement qui va justement vers ce que je suis en train de faire ici, et ce qu'il fait aussi, sur les 1000 premiers jours de la vie, en sachant que ces 1000 premiers jours, ils tiennent compte de la grossesse. On en parlera un petit peu. Et puis, il y a d'autres signes qui montrent que cette conception du bébé, elle change. Il y a eu un film en 2005 qui s'appelait « Le monde selon bébé », qui a été fait par Bernard Georges, que j'ai montré de nombreuses fois à des gens qui sont mes collaborateurs, et qui montrent un petit peu, qui font le tour des recherches qui ont eu lieu dans le monde et qui interrogent les chercheurs sur ce sujet de la vie intra-utérine. Et puis, il y a eu un avocat que je connais d'ailleurs, et qui a été à l'origine aussi de la prise en compte de l'enfant dans les morts d'enfants, dans les décès d'enfants in utero, la mort d'enfant comme un être à part entière qui mérite d'être reconnu et inhumé. Et donc il a fait évoluer la loi, parce que moi j'ai beaucoup accompagné des femmes en deuil de leur enfant, parce que je m'occupais de diagnostic anténatal, et ce sentiment que finalement, cet enfant, il allait terminer comme les pièces d'anatomie dans un four crématoire, et que du coup, il y avait quelque chose qui était extrêmement choquant et brutal, et d'une violence même extrême pour certaines, et que donc cette chose a montré quand même que tout d'un coup, on réalisait qu'il y avait un être, quoi. Alors bien sûr, le bébé est une personne que vous avez sûrement vue, et qui a marqué son époque. Il y a eu aussi quelque chose qui a évolué dans le domaine médical lui-même, c'est le fait que quand on faisait des interventions sur le bébé in utero, des interventions pour des bébés en difficulté qu'il fallait traiter, ou alors dans les cas d'interruption de grossesse pour des malformations graves, on ne s'occupait pas trop de savoir s'il souffrait ou pas. Et depuis maintenant quelques années, j'ai recontrôlé ça récemment, il est vivement conseillé, en cas d'interruption de grossesse pour malformation grave, dans le cadre de la loi, de faire une anesthésie générale à ce fœtus et ce qu'on appelle un féticide, c'est le tuer finalement, avant que de mettre en route le travail, parce que c'est des choses qu'il vit de façon très violente. Donc voilà, alors on n'est pas au bout, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui va plutôt dans le bon sens. Alors, j'allais dire, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'expérience que ce bébé vit dans la vie intra-utérine? Quelle est cette expérience que nous avons tous vécue, qui est inscrite au fin fond de notre subconscient? Et qu'est-ce qu'on en fait, finalement, une fois qu'on est arrivé sur Terre? Ça, on le verra plutôt la prochaine fois. Mais cette question, elle en pose d'autres, c'est-à-dire, finalement, comment on passe d'un rapport sexuel à un être humain? C'est quand même curieux que... Voilà... De quoi est constitué cet être? On va essayer d'aborder quelques éléments. Comment ça se construit dans ces 9 mois, cet être? Voilà, donc des questions, je crois qu'il faut, il faut se mettre comme un enfant et se dire, bon, ben, il faut que je comprenne un peu l'ensemble de ça et oser toutes les questions. Et là, justement, je voudrais aborder, avant de parler carrément de la vie intra-utérine, c'est la question de la méthodologie et de l'attitude du chercheur. Et l'attitude du chercheur, il doit se poser toutes les questions sans a priori. Il ne faut pas avoir d'a priori. C'est-à-dire que, et d'autant plus, quand on s'intéresse à la vie intra-utérine, il ne faut pas avoir d'a priori, et il faut même lâcher nos propres repères en grande partie. Pourquoi? Parce que on va se rendre compte que cet être, il est, non pas extraterrestre, mais préterrestre. Et dans le préterrestre, ce n'est pas du tout les mêmes repères. Et que donc, il va falloir comprendre que, dans plein de notions, il faut qu'on accepte de perdre un petit peu nos propres repères, et essayer de comprendre, à travers les données qui vont nous arriver, de différentes sciences, on va le voir, d'essayer de faire une synthèse et de comprendre ce monde sans se référer sans arrêt au nôtre. Alors, comment est-ce qu'on va procéder pour essayer de comprendre la vie intra-utérine? Eh bien, on va regarder les conditions de vie dans l'utérus, on va en parler tout à l'heure, et le comportement du bébé. On va aussi regarder quelque chose qui est très important, j'aime bien cette idée, c'est le changement de condition. Et le changement de condition, ça va être la naissance. par exemple. C'est un changement de condition. On est dans un monde, on sort de l'autre monde. Et il faut bien comprendre qu'au moment où l'enfant sort du ventre de sa mère, il n'est pas fondamentalement différent de 5 minutes avant. C'est-à-dire que son être fonctionne déjà avec une capacité psychique, etc., etc., et que le fait de naître va produire des choses, des expériences, mais il n'est pas totalement... tout d'un coup, il n'y a pas l'intelligence qui lui tomberait dessus parce qu'il vient de sortir du ventre de sa mère. Vous comprenez ? Il y a quelque chose qui s'est construit sur les 9 mois. Ça paraît assez évident. Donc, regardez les conditions de vie, et puis regardez au moment de ces conditions de vie, qu'est-ce qui se passe ? Et en particulier, les réactions de l'enfant à la découverte du monde des humains. Ça, c'est quelque chose que je trouve absolument très intéressant. C'est que si vous passez une frontière, c'est-à-dire que vous êtes dans un pays où vous passez la frontière, entre le moment où vous étiez d'un côté de la frontière et le moment où vous êtes de l'autre côté, vous êtes toujours le même. Vous êtes toujours avec votre prénom, etc. La seule différence, c'est que vous êtes passé de l'autre côté. Et de l'autre côté, les choses ne se font pas forcément comme le pays où vous étiez. Et donc, quand quelque chose va vous paraître bizarre, c'est que ça ne fait pas partie de vos habitudes. Et donc, au cours de la petite enfance, de l'enfance, de l'adolescence, quand tout d'un coup, systématiquement, les petits-enfants ou les enfants ou même les adolescents vont se trouver devant des choses qu'ils ne comprennent pas de l'espèce humaine, eh ben c'est que ça n'appartenait pas à la vie intra-utérine. Et qu'ils avaient d'autres pères que celui-là. Et ça, ça va être très important pour comprendre la vie intra-utérine. J'ai essayé de comprendre par une approche multidisciplinaire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que la gynéco-obstétrique ne permettait pas de faire le tour du problème et qu'il fallait l'aborder d'autres façons. Et donc il y avait le côté gynécologue-obstétricien et il y a aussi le chose, c'est que moi, la vie psychique m'a toujours intéressé. Donc je me suis trouvé un petit peu au carrefour de toutes ces disciplines avec aussi la phylogénèse, l'histoire de la vie, l'histoire de l'évolution. Parce que l'histoire de l'évolution, eh ben, ça va apporter un élément extrêmement important, c'est que si toutes les espèces évoluent selon des mêmes règles, pourquoi l'humain sortirait de ces règles ? Bien sûr, peut-être qu'il va les dépasser d'une certaine façon, peut-être qu'il ne va pas y correspondre d'une certaine façon, mais tout ce qui se passe depuis 4,6 milliards d'années dans des principes généraux, c'est intéressant de se demander si l'homme n'est pas aussi soumis d'une certaine façon, enfin soumis, qu'il n'en profite pas, parce que ce n'est pas une soumission. Alors d'abord, ce qu'on va faire, c'est d'abord les apports de chacune de ces disciplines, hein, de la gynéco-obstétrique, de la psychologie, des neurosciences et de l'évolution, rapidement. Et après, je ferai une synthèse de l'ensemble. Alors, la première chose qu'on apprend quand on est sur les bancs de la fac de gynécologie et d'obstétrique surtout, c'est l'embryologie. C'est un formidable balai cellulaire, l'embryologie. Vous avez un spermatozoïde qui va s'unir à un ovocyte, deux patrimoines génétiques qui vont se mélanger et faire un amalgame de cellules toutes identiques, qu'on appelle les cellules totipotentes. Donc toutes ces cellules, elles sont capables de tout faire. Donc vous avez quelque chose qu'on a appelé une morula, parce que ça ressemble à une mûre. À partir de cette petite masse cellulaire, qui est toute identique, ça va s'aplatir. Ça va s'aplatir en faisant deux choses, en faisant deux populations cellulaires. Une population qui va faire l'embryon, et une population qui va faire le placenta, les annexes, les membranes et tout ça. Donc il y a déjà une séparation avec deux populations. Et la population qui va faire l'embryon, elle va passer d'un espèce de globe à quelque chose de plat. Et à partir de ce plat, ça va faire... Ce tissu plat va donner 3 tissus différents. Donc ces cellules vont se transformer pour donner 3 tissus. Et ces 3 tissus vont être responsables de tous les tissus de notre organisme. Il y en a qui vont donner la peau, d'autres qui vont donner les organes d'essence, d'autres qui vont donner le tissu musculaire et les os, etc. Donc vous avez 3 tissus. Et ces 3 tissus qui vont être plats vont commencer à donc sur ces 3 tissus, les cellules vont migrer. Et là-dessus, ça va commencer à se tordre, se mettre dans tous les sens, pour commencer à prendre une forme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dans la mémoire génétique, il y a deux choses. Il y a la mémoire de ce que les cellules doivent faire et la mémoire de la forme. Si vous voulez, quand l'ovocyte il est pondu dans l'ovaire, il va migrer et il va arriver, il va être capté par la trompe et migrer dans la trompe. Et c'est là qu'on se rend compte que la phylogénèse se répète dans cette histoire-là. On va en parler un petit peu. C'est qu'il va arriver comme une graine et il va se planter dans la muqueuse utérine et il va sortir de la muqueuse utérine au bout du cordon, comme une tige. Et au bout, il y aura la fleur qui s'appelle l'embryon au début. Donc c'est vraiment quelque chose qui répète, adapté à l'humain, une vieille histoire qui a été conquise par le végétal il y a de très nombreuses années, pour ne pas dire millions d'années. Juste au passage, il faut comprendre que la muqueuse, elle se prépare comme quand on prépare une terre pour planter quelque chose. C'est-à-dire qu'entre le début du cycle et le milieu du cycle, elle grossit, elle devient de plus d'un centimètre. Dans la terre, on met de l'engrais, là, il y a du glycogène qui arrive, et puis on irrigue, n'est-ce pas? Et là, on irrigue avec les vaisseaux sanguins. On voit apparaître les vaisseaux sanguins en grande quantité. Donc, il y a vraiment une analogie par rapport à ce qui s'est passé dans le végétal. Maintenant, on va passer un petit peu à la suite. C'est que c'est bien gentil de dire qu'il se construit un corps dans l'embryologie, mais il se construit aussi un psychisme. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on passe une frontière, eh ben, ce qu'on était avant, on l'est toujours de l'autre côté de la frontière. Quand l'enfant est né, même prématurément, il arrive avec des capacités psychiques. Et que ça s'est construit dans la grossesse. Et pour moi, ça s'est construit aussi, et de façon parallèle à ce qui s'est passé pour le corps. C'est-à-dire que, aussi bien au niveau embryologique du corps, il retraverse, comme on l'a vu, à sa façon, les stades qui l'ont amené à l'homme. Mais on retraverse aussi les forces qui ont animé ces formes de vie, c'est-à-dire les forces psychiques qui ont animé les formes de vie. Et puis on voit bien que quand on étudie un peu, je m'excuse, mais le psychisme animal et le psychisme végétal, on voit bien que ces choses, elles sont aussi dans l'humain. C'est-à-dire que nous sommes construits de la même façon qu'on a un cerveau qui est très, très ancien, on a aussi un psychisme qui est très ancien. Et notre psychisme, il est fait comme de couches, avec une couche qui a été fondée par les forces végétales, une qui a été fondée par l'animal, on a un instinct comme l'animal, et puis on a quelque chose de spécifique à l'humain. Et donc on voit bien qu'on a gagné, dans toute l'histoire de l'évolution, un corps que nous avons grâce à tous les progrès qui ont été faits avant. Vous n'avez pas inventé, je prends toujours le même exemple, le sang chaud, ni la circulation cardiaque, ça a été inventé par des petits animaux au moment des dinosaures, et on en bénéficie. Nous n'avons pas inventé tout le psychisme en étant humain. Il y a le psychisme végétal, il y a un psychisme animal. Et tout ça, par-dessus ça, se construit un psychisme particulier qui est l'humain. On va parler de la mère maintenant. Alors, versant dans la grossesse, versant de la mère. C'est très important aussi à voir ça. Eh bien, du point de vue de ce qui se trame, du point de vue de la grossesse, c'est une symbiose. C'est une symbiose où on a une femme et un enfant, et c'est un femme plus un enfant égale un. Il n'y a pas un plus un égale deux, là. Un plus un égale un. Parce que c'est une unité, ça fonctionne ensemble. On peut prendre une analogie et se dire, peut-être bien qu'on peut considérer, c'est très limitatif ce que je veux dire, on peut considérer l'enfant comme un organe. Le bébé comme un organe, la grossesse comme un organe. Cet organe, il va être évolutif et limité à 9 mois. Mais il va évoluer. Et comme tout organe, ça agit sur tous les organes. Parce que quand vous avez, si votre foie fonctionne mal, ça agit sur tout le reste. Si votre cerveau fonctionne mal, ça agit sur le reste. Si le cœur fonctionne mal, ça agit sur le reste. Et donc en fait, le développement de l'enfant va agir sur toute la biologie de la femme. Vous pouvez prendre le système musculaire, le système aponévrotique, le système digestif, la sexualité, le cardiaque, le pulmonaire, le cerveau, la perception. Vous pouvez tout prendre, tout est modifié. Là, ça serait un cours particulier qu'il faudrait que je fasse sur une heure. Donc, tout est modifié. Par exemple, si vous voulez, sur le cardiaque, c'est très simple. On sait très bien que la tension baisse assez brutalement et qu'on n'a pas du tout la même tension pendant la grossesse qu'en dehors de la grossesse. Et que ça va produire des choses particulières, physiques, qui viennent aussi s'ajouter à une modification psychique. Parce que il ne suffit pas de dire qu'il y a des modifications physiques, il y a aussi des modifications psychiques qui sont capitales. C'est-à-dire que la perception de la femme enceinte en début de grossesse, elle n'est pas du tout la même qu'en dehors de la grossesse. Et pendant tous les 3 trimestres, ça va évoluer. Si on continue sur la mère, la mère, elle amène, c'est une assistance continue à la création. On est bien d'accord. Il est en train de se créer un petit être, donc elle est celle qui assiste à la création. C'est-à-dire que elle va amener pendant 9 mois tous les besoins biologiques à cet enfant. Et là, il faut comprendre que c'est une précision incroyable. C'est-à-dire que je me suis beaucoup occupé de fécondation in vitro, je l'avais déjà dit, mais en fécondation in vitro, il faut qu'on adapte les milieux de culture de l'embryon, et actuellement on est beaucoup plus pertinent qu'avant, mais c'est très compliqué. Il faut sans arrêt changer les milieux de culture pour que l'embryon, il ait ce qu'il lui faut pour évoluer. Et bien la femme, elle fait ça pendant 9 mois, sans problème. Sans aucun souci. Et donc il y a, mais si je dis ça, c'est qu'il y a une intelligence à travers la vie dont cette femme est dépositaire aussi bien pour construire le corps que pour construire l'esprit, qui est absolument fabuleux. C'est-à-dire que pendant 9 mois, il y a à chaque instant tout ce qu'il faut. Et là, il faut comprendre que ça produit quelque chose de très particulier dans l'expérience de l'enfant, c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir, il n'a pas de besoin, il n'a pas de désir, il ne peut pas, puisque avant même qu'il les ait, les choses sont là. Et il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que cet être, il est très, très immature tout un temps, et qu'il va se maturer, et qu'elle va produire autre chose. C'est une assistance aux fonctions vitales. Ce n'est pas tout à fait la même chose. L'assistance aux fonctions vitales, c'est qu'elle respire pour lui, elle digère pour lui, elle purifie le sang pour lui, elle fait la chaleur pour lui, elle fait tout pour lui. C'est-à-dire que si vous imaginez un centre de réanimation le plus moderne possible, vous êtes loin, loin, loin de ce que veut faire une femme. Il y a dans le psychisme des parties qui sont explorables par une mémoire qui n'est pas la mémoire du cerveau, qui est la mémoire, une mémoire psycho-corporelle, sensorielle, mémoire du cœur, on peut l'appeler comme on veut, qui est une mémoire extrêmement directe. Et pour ceux, vous connaissez tous l'histoire de la Madeleine de Proust, et l'odeur de la Madeleine de Proust fait revenir l'amour de la grand-mère, ça c'est cette mémoire que ça met en route. C'est-à-dire qu'il ne se pose pas la question « comment était ma grand-mère ?» La grand-mère revient parce que la madeleine est associée à l'amour qu'elle lui donnait en faisant ses madeleines. Ça, c'est la mémoire, c'est cette mémoire dont je parle. Cette mémoire, bien sûr, si on sait un peu la mettre en mouvement et que l'être a envie d'aller chercher des choses, et bien, c'est possible d'aller explorer des choses très profondes, même très proches de la naissance, même dans la naissance. Et donc, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup appris, cette technique. Les neurosciences, elles ont amené quelque chose d'extrêmement important, c'est la relation entre le bébé et sa mère. Surtout, ça c'est dans la revue Science et Avenir, que le fœtus est vraiment un génie. Et ça, on le sait, mais c'est comme si on n'en tenait pas vraiment compte. C'est un génie qui est cérébralement équipé de façon très puissante pour découvrir le monde. Et il a été comparé à un ingénieur en recherche et développement de très très haut niveau. C'est-à-dire qu'il est capable... Il va explorer par sa perception le monde, il va engranger des informations, il va mouliner tout ça, faire des hypothèses et tester les hypothèses. Alors au passage, je vous le dis tout de suite, donc ça veut dire que si quand il teste une hypothèse, toujours, il a une réponse une fois d'un côté, une fois de l'autre, il ne peut pas maîtriser le monde. Ce qui veut dire que si les parents n'ont pas une certaine stabilité dans leur façon de se comporter, l'enfant ne sait plus comment réagir, il ne sait plus comment se comporter. Marie-Claire Busnel, elle a montré qu'en fait, l'expérience qu'elle a fait, c'est chez les femmes qui avaient des jumeaux, c'est qu'elle a enregistré très précisément le rythme cardiaque des jumeaux, séparément, et il disait à la mère, ben voilà, vous allez, nous on va quitter la pièce pour ne pas déranger, et puis vous allez vous adresser à ce jumeau, et puis à celui-là. Donc vous allez parler spécifiquement, mais pas avec l'intelligence, avec le cœur. Vous vous adressez à lui comme une mère amoureuse, et vous lui parlez. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, quand elle parlait à ce jumeau, c'est ce jumeau qui réagissait, et quand elle parlait à l'autre, c'est l'autre qui réagissait, et que l'autre ne réagissait pas trop. Mais surtout, ce qui a été le plus fabuleux, c'est le moment où elle a mis un mur entre les deux pièces, c'est-à-dire que la mère était d'un côté, et le bébé de l'autre. Ou les bébés de l'autre. Et que ça marche aussi. On sait aussi maintenant qu'à la naissance, l'enfant, il reconnaît très très bien sa mère tout de suite, il n'y a aucun problème. Hein, il a tout à fait...
la capacité de savoir qui c'est qui parle, il la connaît, mais on va en parler aussi tout à l'heure. Et puis, il y a surtout un lien psychique qui perdure. C'est ce qu'on vient de voir, d'ailleurs, c'est une autre façon de dire la même chose, c'est que cette communication, c'est qu'il y a un lien psychique étroit qui va petit à petit, le corps a pris une certaine distance, pas trop, parce qu'autrement, si on s'occupe pas de lui, il meurt, mais le psychisme, c'est pas encore vraiment séparé. Et pendant très longtemps, l'enfant confond sa mère et lui. C'est un peu la même chose. Alors, on va revenir à la vie intra-utérine cette fois-ci, et donc le milieu ambiant dans lequel vit cet enfant, eh bien, vous en avez déjà des idées avec tout ce qu'on vient de dire, hein, vous pouvez vous en faire une idée, de cette symbiose, donc cette intimité entre ce qui se met en route dans cet enfant qui va se développer et sa mère, entre ce qui donne vie et ce qui se met en route pour créer cet organisme, il y a une symbiose, donc c'est une symbiose avec la mère créatrice, hein, on pourrait dire. Donc, il est fondu à l'environnement maternel qui génère sa construction, selon un programme issu de la phylogénèse, c'est ce qu'on a dit. Elle assiste et conduit sa création. Cet organisme, non seulement, rappelez-vous, il construit le corps, mais il construit aussi le psychisme. Une partie du subconscient. Et, comme j'ai dit aussi, il est le résultat de 4,6 milliards d'années, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans une intelligence faramineuse. Donc cette capacité à perpétuer la vie en s'appuyant sur 4,6 milliards d'années d'évolution n'appartient pas à la conscience d'une femme, c'est-à-dire que ce n'est pas conscient dans la femme, cette chose, mais un héritage inconscient et corporel commun à toutes les femmes, comme une part de féminité primordiale, présente en chaque femme, mais qui dépasse toutes les femmes. C'est-à-dire que ça appartient fondamentalement, et il faut le comprendre parce que l'enfant perçoit, dans la vie intra-utérine, il perçoit ça de sa mère. L'enfant, dans sa vie intra-utérine, est en contact avec cette partie de la féminité primordiale. Il ne considère pas sa mère comme un prénom, comme une femme qui a des goûts, des choses qu'elle aime, qu'elle n'aime pas. C'est pas ça. C'est quelque chose de beaucoup plus puissant que ça. C'est le résultat de 4,6 milliards d'années. C'est quelque chose de... C'est le créateur en route, ou la créatrice en route, ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. C'est donc quelque chose de faramineux, ce qu'il y a dans la... Mais ce qui veut dire quand même... que cette chose faramineuse appartient à toutes les femmes. Alors ça rejoint de nombreuses traditions sur la mère originelle, sur la terre-mère, par exemple, sur la mère universelle, sur la mère des origines, pour les chrétiens, sur la Vierge Marie, par exemple. Donc, et chez les musulmans aussi, d'ailleurs, il y a cette idée-là. Donc ça touche quelque chose qui mérite vraiment réflexion et qui est extrêmement élevé. Et donc leur relation, ben, c'est une action capitale, c'est la construction de cet être, et c'est aussi un enseignement essentiel. Parce que l'enseignement essentiel, c'est quoi ? Eh ben, c'est la traversée de toute l'histoire de la vie. Il est en contact avec comment la vie s'est développée, et ça se passe. En même temps, ça se construit, et en même temps, il y assiste. C'est-à-dire que cette mère universelle est intimement perçue comme un amour constructeur, inconditionnel et sans faille. Je ne parle pas de la pathologie. Revenons-en à la physiologie, donc à ce contact avec cette partie maternelle créatrice. Et il faut comprendre que l'enfant, il reçoit le monde extérieur, bien évidemment, il le reçoit. En même temps, il y a tout ce monde intérieur qui se construit avec les deux aspects, mais aussi les mondes extérieurs qui arrivent. Mais ça arrive atténué par le ventre, atténué par... Il est dans un milieu liquide. Vous savez que dans un milieu liquide, on est ballotté, mais ça nous ralentit. Quand vous êtes dans une piscine, vous ne pouvez pas bouger aussi vite que quand vous êtes en mouvement dehors. On est porté, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Donc il y a quelque chose qui est vraiment filtré, non seulement au point de vue son, au point de vue lumière, mais au point de vue mouvement. Donc il reçoit le monde extérieur atténué. Donc la lumière est filtrée par les tissus maternels, et vraisemblablement il perçoit un peu de lumière, donc des formes... un peu diaphane. Il reçoit quand même le son, la musique, ça a été montré, là, il y a des expériences qui ont été faites très intéressantes sur la musique. Par exemple, des femmes qui adoraient le rock, pendant la grossesse, qui écoutaient du rock, quand on mettait du rock à l'enfant, il s'endormait. Mais si on mettait du rock à celui qui avait écouté la harpe, ça le mettait dans des états de transe. Et vice-versa, celui à qui avait écouté du rock, si on lui mettait la harpe, il pouvait ne plus dormir, il était en stress complet. Donc on voit à quel point, là aussi, on se retrouve dans la même histoire que la Madeleine de Proust. L'expérience d'amour vécue dans la vie intra-utérine, inscrite à travers la musique que la femme écoutait ou produisait, parce que là, c'était, c'est dans le film Le monde selon bébé qu'on voit cette femme jouer de la harpe, et bien fait que l'enfant mémorise la harpe comme l'amour, et donc ça l'apaise, il se tranquillise, il a ce qu'il lui faut. Voilà. Et puis le souffle du cœur, le rythme du cœur, il perçoit. Donc, et puis les mouvements, les ballottements. Le mouvement de bercement, il est bercé, il frôle aussi les parois, et puis le cordon, il frôle son cordon aussi, donc tout ça est atténué, mais c'est déjà le monde extérieur qui arrive. Et puis il découvre aussi le goût, parce que ce que mange la mère, bien sûr, ça passe par sa digestion, par le placenta, il y a des choses qui arrivent dans le liquide amniotique et qui vont lui donner un certain goût, et du coup l'enfant s'habitue aussi à ces goûts-là. Alors après, il y a Jean-Marie Delassus qui avait créé la maternologie, qui s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'il voyait l'enfant, qu'est-ce qu'il voit. Alors on a vu que s'il regardait avec ces yeux-là, il voyait que des ombres puisque la lumière est filtrée. Par contre, on sait qu'il voulait avoir quelque chose puisqu'il est en contact avec sa mère psychiquement et qu'il y a une interaction qui a lieu. Mais quand même, vraisemblablement, il y a des images. Parce que vous avez bien même les yeux fermés des images quand vous rêvez. Il y a des images quelquefois très très précises, extrêmement précises même. Si ça vous arrive un jour de faire un rêve qu'on appelle les rêves lucides, où vous rêvez, vous savez que vous rêvez, essayez de zoomer, vous allez voir quelquefois c'est incroyable la précision du truc, quoi. Donc, il y a ce qu'il appelait le regard intérieur. C'est-à-dire qu'il y a un regard qui se... C'est comme si les yeux ne regardaient plus de dehors, mais regardaient dedans. Et donc, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il regarde ? Et moi, j'émets l'hypothèse assez simple, que vu que ce qu'on sait, c'est qu'il vit dans l'ici et maintenant, il n'a pas encore la capacité, comme nous, de voyager dans le temps, de penser le passé, de penser le futur. Il est complètement dans l'ici et maintenant. Non seulement il est ici dans l'ici et maintenant, mais il est en train d'assister, de construire dans son corps et de retraverser toute la phylogénèse. Donc je pense qu'il est devant un magnifique documentaire sur la phylogénèse, mais je n'ai aucune idée des images, Patrick, par exemple, à quoi ça peut ressembler. Je ne sais pas, il doit y avoir des forces, des trucs qui nous échappent complètement. Mais vraisemblablement, s'il y a des images, ça va être des images qui parlent de cette histoire, parce que c'est ce qui est en train de se passer. La définition qu'on a, pour finir avec ce bain, qu'on peut donner... Pour moi, je l'ai appelé chaleur amoureuse à un moment et complétude après. Complétude, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'il faut. Et Jean-Marie Delassus, donc celui qui avait inventé, le médecin qui avait inventé la maternologie à Versailles, il appelait ça la totalité vitale. Totalité vitale, ça veut dire qu'en fait, il y a tout pour construire la vie, quoi. Mais j'espère vous l'avoir fait sentir, c'est aussi une histoire d'amour. C'est une première histoire d'amour. Fabuleuse. Mais avant, je voudrais préciser un peu comment on peut se faire un peu plus une idée de cette complétude, et je vais revenir sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que quand on passe une frontière, les choses que vous trouvez absolument horribles, c'est qu'elles n'étaient pas du tout comme ça avant. Et donc l'enfant va traverser, le petit enfant, l'enfant, l'adolescent, va traverser un certain nombre de chocs qu'on appelle des traumatismes. Et ces traumatismes, qu'est-ce que c'est ? Le premier, c'est celui de la naissance, bon, on ne va pas trop en parler, c'est pas le plus important, mais c'est si vous voulez... Si, c'est la sortie de ce monde idéal pour un monde pas du tout idéal. Donc c'est de la perfection à l'imperfection. Et voilà, c'est assez simple à comprendre. C'est un ensemble global, c'est plus comme avant, quoi. Et c'est pas du tout aussi chaleureux. La mère, maintenant, elle a un prénom, elle a un comportement, elle a des raisons d'aimer cet enfant et de ne pas l'aimer. Elle est quelquefois en colère, quelquefois énervée, quelquefois elle pense à autre chose, quelquefois elle est pleine d'amour, elle a tout, quoi. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'est tout le temps 24 heures sur 24, l'amour, 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 l'amour. Donc c'est plus pareil. Et c'est normal que ce soit plus pareil. Donc il y a ça. La deuxième chose qu'on connaît bien, c'est le mensonge. L'enfant va découvrir le mensonge, et pour lui, c'est ça. Le mensonge, c'est quelque chose d'incompréhensible. Il y a des choses qui sont, et elles sont, mais ce qu'elles sont, elles sont, il n'y a pas à discuter. Et pourquoi dire quelque chose qui n'est pas ? Il y a une espèce de contradiction monstrueuse pour l'enfant dans ce mensonge, et que ça va être extrêmement compliqué à accepter. Et on sait très bien qu'entre le moment où il découvre le mensonge, le moment où il accepte le mensonge et le moment où il commence à mentir lui-même, il faut beaucoup de temps, il faut une grande maturité. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça serait une autre digression, mais c'est très compliqué. Donc c'est un événement extrêmement compliqué, la découverte du mensonge. Et puis il y a les découvertes plus tard du plaisir honteux. Vous savez, si on regarde le plaisir à travers la sexualité, Si je vous parle de la fonction respiratoire, de la fonction cardiaque, de la fonction cérébrale, vous êtes presque prêt à vous endormir au bout d'un moment. Si je parle de sexualité, ça ne fait pas le même effet. C'est comme si on disait, oula, en même temps c'est excitant, en même temps il y a malaise, quoi. Un petit truc toujours. Ben oui, parce qu'il y a eu quelque chose dans notre histoire où au moment où l'enfant était que dans le plaisir de la découverte, que dans le plaisir, que dans la joie, que dans tout ça, il y a eu quelque chose qui est venu lui dire, et heureusement, je ne vais pas vous parler de ça maintenant, mais heureusement, c'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas être que dans le plaisir, parce que quand ce plaisir fait mal à l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et que si on était tous restés, si vous regardez un petit enfant quand il joue, il prend un truc, et puis ça ne l'intéresse pas, il le jette, ça se casse, il s'en fout complètement. Il ne s'intéresse pas. La maman peut être crevée, épuisée, elle peut avoir du boulot, elle peut avoir tout ce que vous voulez, et lui, il pleure, il faut venir chercher, il s'en fout complètement. Ça ne rentre pas dans son esprit que l'autre peut souffrir, que l'autre... Donc il est... c'est en même temps très centré sur lui, et c'est normal. C'est normal. Mais il va falloir à un moment que cette chose change, et la découverte du plaisir et la honte va être quelque chose qui va être très compliqué, mais formateur. Alors tout va être formateur, mais ça va être très formateur. Mais c'est extrêmement compliqué. L'autre chose, c'est dans l'adolescence que ça se passe. Moi, j'ai appelé ça la perte de l'espoir de fusion, et au lieu de fusion, on va mettre symbiose. C'est-à-dire que quand on est adolescent, on pense qu'on va rencontrer l'âme sœur, qu'on va s'aider comme des... On n'aura même pas besoin de se parler tellement on va se comprendre. Ça va être une espèce de symbiose. On va se prendre les mains dans la main et tout va bien se passer, quoi. Et puis, à un moment, on se rend compte que non. Et tout d'un coup, on perd quelque chose qui est absolument central dans l'expérience de la vie intra-utérine, c'est cette symbiose dont je vous ai déjà parlé et qui était extrêmement forte, extrêmement riche et extrêmement liée à l'amour. Donc, on a déjà maintenant... du coup, si on regarde ça, non pas du côté négatif, mais du côté positif, on a une idée de ce que c'est que la vie intra-utérine. Comme ce type qui passe la frontière, il y avait quelque chose avant qu'il a perdu. C'est une certaine perfection. C'est la vérité. C'est le plaisir. C'est la symbiose. Et donc, dans cette expérience, il y a déjà ces quatre ingrédients qu'on peut résumer dans un grand truc, c'est l'amour, avec les composantes qu'on a essayé d'apercevoir à travers tout ce qui se passe à travers le corps de la femme. Une existence idéale en fusion avec et dans un amour universel inconscient, et cet amour est fait de vérité et de joie. Alors, je voudrais juste insister sur une petite chose qui n'est pas anodine du tout. C'est que dans la vie intra-utérine, l'enfant reçoit l'amour, mais il n'est pas à l'origine de l'amour. Il ne donne pas d'amour. Il reçoit l'amour et répond à l'amour. Mais il n'est pas créateur d'amour. C'est-à-dire que non seulement ça, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en même temps, il n'est pas créateur, il le reçoit. Et on verra comment ça pourrait évoluer après. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'est pas conscient. Conscience, ça veut dire au sens où il ne peut pas dire « je suis en train de recevoir de l'amour dans le ventre de ma maman ». Et puis, sur le premier point que je vous ai souligné, c'est le fait que, en effet, il reçoit l'amour. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important, parce que j'ai développé en d'autres circonstances une perception de l'existence humaine comme un apprentissage à aimer. Et que, en fait, il y a, au niveau de tous ces degrés d'amour qui passent, les étapes, c'est la vie intra-utérine, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, etc., etc. Il y a un moment où ça devrait basculer, si nous étions matures, c'est le moment où nous avons reçu l'amour et au moment où nous donnons l'amour. Et bien évidemment, le moment de la bascule, c'est le moment au moins où on est parent, puisqu'on devrait être capable de donner à son enfant sans attendre du retour. Et on sait très bien que quand ils sont adolescents, il y a de fortes chances qu'ils nous mettent plus bactères, pendant quelques temps, après ça revient. Et puis que si on, par hasard on leur dit « avec tout ce que j'ai fait pour toi », ils vont nous dire « je t'avais rien demandé ». Et ils n'ont pas tort. Donc l'idée que parce qu'on aime nos enfants, ils vont nous rendre quelque chose comme si on était en attente encore de recevoir, c'est une idée un peu obsolète, qui devrait être obsolète, et qui devrait être de plus en plus obsolète. C'est-à-dire qu'on devrait de plus en plus être des êtres qui vont donner de l'amour, plutôt que des êtres qui sont en mendiant d'amour, qui sont toujours en attente de... Il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'aime, il faut que je reçoive, il faut qu'on fasse attention à moi, etc., etc., etc. Donc ça, c'est une perception plus loin, mais il faut comprendre qu'au départ, l'enfant n'a qu'une chose, c'est recevoir de l'amour. À la naissance, lui, il a l'impression d'arriver avec un trésor de cette expérience. Et c'est ce trésor qui va être mis à mal. Et dans toutes les... dont je parlais tout à l'heure, ces scènes où on retrouve la naissance, c'est très souvent que que l'être, il arrive avec cette volonté de faire quelque chose sur Terre, de voilà, qu'il y a vraiment une volonté de garder ce trésor, de cette expérience fabuleuse qu'il a fait. Alors je voudrais revenir sur qu'est-ce que c'est que l'enfant. Donc on a dit un corps, un psychisme, je vous ai expliqué un petit peu comment on pouvait voir ce psychisme. J'ai pris une analogie pour faire expliquer ça. C'est finalement, si on regarde l'enfant quand il arrive à la naissance et au moment où il va sortir, il arrive avec, pour moi, la composante corps, la composante psychisme et l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi ? C'est comme s'il y avait le corps qui était un véhicule d'exploration de l'espace et du temps humain. Donc c'est un extraterrestre qui arrive. Le psychisme, ça va être l'interface intelligent qui va essayer de brasser toutes les informations pour se débrouiller et manipuler ce véhicule pour qu'il fasse ce qu'il faut. Puis il y a un pilote. Et le pilote, c'est l'esprit ou l'âme, je ne sais pas comment on l'appelle. Donc là, la définition, on va pas se lancer là-dedans parce qu'il n'y a pas moyen de se mettre d'accord les uns avec les autres, donc chacun mettra ce qu'il veut. Et puis il y a aussi le plan de vol. Le plan de vol et le pilote sont intimement liés. Mais en fait, il semble bien, dans tout ce qu'on retrouve, qu'il y ait ces trois éléments ou ces quatre éléments avec quelque chose qui est vraiment, en arrivant, une volonté de faire quelque chose. Et on ne peut pas s'étonner de ça, puisque la phylogénèse le dit. La phylogénèse dit, les formes de vie qui existent depuis 4,6 milliards d'années, bon, la plupart ont amené leur partie à l'évolution. Elles ont amené leur part, elles ont rencontré des difficultés, et elles ont essayé de trouver une solution à cette difficulté. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi, mais le but c'était, il m'arrive quelque chose, il faut que je trouve une solution. Et ça, c'est l'avenir. C'est plus j'ai un corps et puis mon psychisme me permet de me débrouiller dans les circonstances tout de suite. C'est quelque chose de dynamique qui est vers. Et ça, c'est l'esprit. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus du futur inscrit dans l'homme depuis la vie intra-utérine. Et cette chose, à mon avis, c'est absolument indispensable si on veut accomplir les êtres que nous sommes, de retrouver cette chose. La retrouver pas forcément. Avec des exercices sur le psychisme et le passé, pas du tout. Il suffit de le retrouver dans le présent, et ça c'est très possible. Et c'est possible parce qu'en fait c'est inscrit dans le cœur, pas dans l'intelligence, mais dans le cœur. C'est-à-dire que pour moi, il y a l'intelligence qui va brasser les idées, les informations et tout, et qui devrait être au service du cœur, qui lui est dépositaire de ce plan de vol, qui est dépositaire en même temps de l'esprit humain, de ce qui est spécifique à l'humain, qui est la chose la plus essentielle, la chose indestructible, même par la mort, ça ne peut pas le détruire. Donc la phylogénèse dit bien que toutes les formes de vie sont inscrites dans un processus d'évolution, et que chacun de nous peut participer à cette évolution, et que, en ce qui concerne l'humain, dans tout ce qu'on retrouve dans ce plan de vol, le plan de vol, dans tout ce que j'ai retrouvé, dans tout ce que nous avons retrouvé, ou que d'autres ont retrouvé, ça a toujours comme sujet l'amour. Les yeux voient flou, on le sait, mais son esprit voit très clair. Et il voit ce que moi j'appelle ici la météo. La météo, c'est comment va l'autre. C'est-à-dire comment va l'autre dans son corps, dans ses pensées et dans son cœur. C'est-à-dire que l'enfant, je l'ai développé aussi, il se développe comme une plante au soleil, si vous voulez. Le printemps, ça sort parce que le soleil chauffe, qui produit de la chaleur et de l'éclairage, et que cette chose va faire pousser le végétal. Eh bien, c'est pareil. L'enfant, il a besoin d'une bonne météo. Et la bonne météo, c'est surtout par la mère au début, puis par les parents et par l'entourage. C'est la bientraitance, la bienveillance. Mais ça veut dire qu'il va recevoir de l'amour, et cet amour va le faire se développer. Et l'enfant, il reçoit l'amour par trois choses, par les mots d'amour, par les caresses et par les yeux d'amour. Mais si on a des pensées douloureuses, si on a mal quelque part, si on n'est pas bien dans son couple, le soleil, il brille moins. Et donc, ce qui intéresse l'enfant, c'est la météo de la vie intérieure, de la mère et de ce dont il dépend. Et donc, il a une capacité à voir la météo qui est incroyable. Et si vous remontez un peu dans votre petite enfance, vous allez voir que vous n'aviez pas besoin de grand-chose pour savoir comment allait votre maman, votre papa, et que si vous dépendiez de votre maman et qu'elle n'allait pas bien, vous saviez très bien qu'elle n'allait pas bien. Il perçoit, avec son esprit, avec cette capacité, ce qui pose un problème par rapport aux organes d'essence. C'est-à-dire qu'il est en train d'acquérir, comme nous, des organes d'essence, mais beaucoup de chercheurs, finalement, arrivent à une espèce d'hypothèse qu'ils n'osent pas trop pousser, mais qui ferait que finalement il y aurait un organe d'essence primitif très puissant qui se séparerait après en plusieurs types d'organes d'essence, mais qui aurait quelque chose d'extrêmement puissant et qui serait unique, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas besoin de diverses informations, c'est une connexion directe que moi je crois totalement liée au cœur. L'arrivée sur Terre est extrêmement complexe. Plus on va le savoir, plus on va faire attention à ces 1000 premiers jours de la vie. Donc on se pose la question de cette espèce de difficulté qu'il a. Et cette difficulté, elle est due à quoi? Elle est due principalement à une chose, c'est que si les conditions de la Terre ne font en aucune façon écho aux conditions de la vie intra-utérine, il est obligé de quitter tout espoir de retrouver quelque chose de l'ordre de cette complétude sur Terre. Et ça s'appelle le désespoir. Et ça, j'en parlerai beaucoup plus la prochaine fois dans cette construction. C'est-à-dire que ce qui va faire, et ça c'est de là-dessus aussi qu'il dit, ce qui va faire que l'enfant va garder espoir, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle des équivalents de la complétude sur Terre. C'est quoi les équivalents de la complétude? C'est la bientraitance, la bienveillance, c'est l'amour. Et il faut croire que les enfants doivent en manquer furieusement, avec toute la violence qu'on voit sur Terre. Parce que la violence est toujours issue de la douleur intérieure. Il n'y a pas des êtres violents qui sont nés violents comme ça. Ils sont violents parce qu'ils souffrent. Et donc toute cette souffrance de cette séparation qu'il y a eu à la naissance et de ce désespoir de pouvoir retrouver au moins des aspects de cette complétude, ça a des conséquences très graves sur l'humain. Et même ceux qui ne sont pas désespérés, pour qu'ils arrivent à reprendre pied par rapport à ça, on le fait ici, je peux vous dire c'est compliqué, ceux qui sont proches de moi savent que ce n'est pas si simple, parce qu'il y en a beaucoup qui essayent de retrouver tout cet élan, toute cette vie, tout ce que contenait cet espoir à la naissance, et ce n'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il y a eu, dans ces 1000 premiers jours de la vie en particulier, des choses qui ont manqué. On sait très très bien, actuellement, par les neurosciences, que la maltraitance produit une altération, quelquefois irréversible, du cerveau. Je n'ai pas dit irréversible, irréversible. Donc, il y a des choses qui vont être impossibles à récupérer. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant est un génie très sensible et fragile. Et en voilà un. Alors, je voulais juste faire un petit exercice pour finir. Quand vous regardez cet enfant, vous voyez quoi? Qu'est-ce qui vous vient? Avec le cœur, pas avec l'intelligence.